Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 29 janvier 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran a exporté pour 28 milliards de dollars de produits non pétroliers malgré les sanctions, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. Un bateau d'assaut saoudien chargé d'armes et de munitions a été détruit au large de la côte de Houdaïdar au Yémen. Entretien syro-algérien pour renforcer la coopération commerciale. La France subit une récession record depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré qu'en dépit de toutes les sanctions, l'Iran a exporté plus de 28 milliards de dollars de produits non pétroliers au cours des 10 derniers mois de l'année iranienne en cours qui commence le 20 mars. Plusieurs projets agricoles ont été inaugurés par le président iranien Hassan Rouhani dans les provinces d'Ardabil, de Khuzestan et de Golestan, marquant les jours précédents l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979. Dans un discours prononcé après la cérémonie d'inauguration, le président Rouhani a salué les réalisations du peuple iranien et du gouvernement dans le cadre des sanctions américaines sans précédent, ainsi que de la pandémie de coronavirus. Il a exprimé sa gratitude à la résistance du peuple pendant la période difficile de la pandémie et celle des sanctions, remerciant les agriculteurs iraniens pour leur rôle dans la sécurité alimentaire du pays. L'Iran met en garde contre un probable changement de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne a mis en garde contre de tout changement probable du niveau de coopération de l'Iran avec l'AIEA. Les remarques de Kazem Gharibabadi sont venues en guise de riposte à la condition de la nouvelle administration américaine de retourner au plan global d'action conjoint accord sur le nucléaire iranien. Dans un tweet, il a écrit « La coopération et la bonne volonté sont des rues à double sens, pas un boulevard à sens unique ». La nouvelle loi du Parlement iranien a également donné une autre chance de maintenir la coopération extrêmement sans précédent et impressionnante avec l'AUA en supprimant les sanctions, a-t-il souligné. Un bateau d'assaut saoudien chargé d'armes et de munitions a été détruit au large de la côte de Hudaïda au Yémen. Selon Al-Khabar al-Yémeni, un bateau appartenant à la coalition d'agression saoudienne et chargé d'armes et de munitions a explosé alors qu'il se dirigeait vers le port de Morha. Selon Al-Khabar al-Yémeni, un bateau appartenant à la coalition d'agression saoudienne a été détruit. Le site d'information a précisé que le bateau devait livrer des armes et des munitions aux forces d'agression saoudienne qui ont remplacé les effectifs émiratis sur la côte ouest du Yémen. Et de transition est faite pour se rendre au Liban où des émeutes de Tripoli ont éclaté, un tué de 226 blessés. Les manifestations qui ont éclaté dans la ville de Tripoli au Liban ont dégénéré en affrontements entre des émeutiers dont certains semblaient armés et des forces de sécurité libanaises. Il y a eu un mort parmi les manifestants et 226 blessés parmi les civils et les militaires, a indiqué l'agence de presse nationale libanaise ANI. 20 membres des forces de l'ordre ont été blessés après avoir été attaqués aux grenades. Militaires ont rapporté des sources sur place pour la télévision Al-Mayadin. Sur leur page Twitter, les forces de sécurité intérieure ont assuré que des bombes de fabrication ont été tirées contre leurs éléments chargés de la sécurité durant les manifestations. L'ambassadeur de Syrie en Algérie, Noumaïr Waibal Qanim, et le ministre algérien du commerce extérieur, Kamal Rizaïk, ont examiné les moyens d'activer les échanges commerciaux entre les deux pays et d'ouvrir les marchés algériens aux produits syriens. Le ministre a affirmé la volonté permanente du gouvernement algérien de coopérer avec la Syrie et de renforcer les relations économiques et commerciales avec la partie syrienne à travers les accords économiques et bilatéraux signés entre les deux pays. Pour sa part, l'ambassadeur syrien en poste à Alger a affirmé la détermination de l'État syrien à poursuivre le processus politique pour servir l'intérêt du peuple syrien et d'achever la purification des territoires syriens de ce qui reste des réseaux terroristes soutenus par les occupants américains et turcs. L'économie française a subi une récession massive en 2020 sous le coup de l'épidémie de COVID-19 avec une chute du pouvoir intérieur brut PIB de 8,3% selon une première estimation publiée vendredi par l'INSEE qui est toutefois moins mauvaise que de ce qui qu'anticipait l'Institut. L'INSEE prévoyait en effet une prolongation du PIB d'environ 9%, mais l'économie française a mieux résisté au deuxième confinement à l'automne avec un recul du PIB de 1,3% sur le seul dernier trimestre, pénalisé surtout par la chute de la consommation des ménages, tandis que l'investissement et le commerce extérieur se sont redressés. Des progrès significatifs et durables ont été réalisés dans les relations entre l'Afrique et la Chine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que des progrès significatifs et durables ont été réalisés dans les relations entre la Chine et l'Afrique. Avec la Chine, des progrès significatifs et durables ont été réalisés dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, a-t-il estimé dans une analyse de son premier mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Eh bien, chers amis, ici prend fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran renforce ses capacités nucléaires, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran a déclaré que 1000 centrifugeuses IR2M seraient installées dans le site de Natanz dans les 3 mois à venir. Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, a déclaré que cette organisation a réalisé de grands projets conformément aux directives du guide suprême de la révolution islamique et que l'Iran enrichissait de l'uranium en utilisant une technologie à 100% locale. Il a fait ses remarques en s'adressant aux journalistes en marge de la visite du président du Parlement iranien après Mohammad Bagher Ghalibaf à l'usine de Fordouh ce jeudi. Ce n'est pas seulement l'enrichissement. Nous avons beaucoup progressé dans le domaine des radiopharmaceutiques, de la production de yellowcake et de l'oxygène, a affirmé le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique en faisant état de l'installation prochaine de 1000 centrifugeuses IR2M dans l'installation nucléaire de Natanz. Il y a actuellement 17 kg de soc d'uranium enrichi avec une pureté de 20%, a-t-il précisé. Les capacités de l'industrie nucléaire ne sont pas comparables aux années précédentes, a-t-il souligné encore. Quant aux engagements auprès des parties signataires du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien et le retour des États-Unis à cet accord, Kamalvandi a souligné que l'Organisation iranienne de l'énergie atomique attendra les décisions qui seront prises par les plus hautes autorités iraniennes. Interrogé sur la possibilité de suspendre volontairement la mise en œuvre du protocole additionnel en temps voulu, le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré « Nous respecterons la loi à la lettre. Il appartient au Parlement et au gouvernement de décider en la matière. » Début septembre 2020, le Parlement iranien a adopté un projet de loi baptisé « Plan d'action stratégique visant à contrer les sanctions ». Approuvé par le Conseil des gardiens de la révolution islamique, la loi avait donné à Washington 2 mois pour lever toutes les sanctions.
Bon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission des débats. C'était en novembre 2015 et suite aux événements terroristes et survenu en France que le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, a envoyé une lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, des jeunes occidentaux. Dans sa lettre à l'adresse des jeunes d'Europe, l'honorable Ayatollah Khomeini a souligné « Je vous demande de jeter à l'appui d'une juste conception et d'une vision profonde et en référence à des expériences amères, les bases d'une interaction juste et loyale avec le monde de l'islam. » Et l'honorable Ayatollah Khomeini, dans sa lettre à l'adresse en fait des jeunes d'Europe, a fait allusion à ces actes de terroristes dont font l'objet, par exemple, les peuples, que ce soit en France, en Irak, au Liban, en Syrie. Il a en fait de souligner toujours dans sa lettre, et je suis persuadé que seul vous, les jeunes, vous avez la capacité de tirer des leçons des événements désagréables de ces derniers jours. Bien sûr, là, l'honorable Ayatollah Khomeini fait référence aux événements terroristes survenus en France en 2015, afin de trouver de nouvelles voie pour bâtir l'avenir et d'empêcher les déviations qui ont conduit l'Occident à sa situation actuelle. Et toujours dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khomeini a précisé aujourd'hui, personne n'ignore le rôle des États-Unis dans la formation, le renforcement et l'armement d'Al-Qaïda. Ce groupe terroriste, les protecteurs révélés et bien connus du terrorisme Takfiri, sont constamment sur la liste des alliés de l'Occident et ce, en dépit de leur régime politique les plus arriérés, qui répriment cruellement les idées les plus avancées et les plus éclairées des démocraties dynamiques dans la région. Eh bien, nous allons avoir en fait un regard rétrospectif sur cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Alsace un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître André Chamy. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation et surtout pour votre accueil habituel. Et mes salutations à l'ensemble de l'équipe ainsi qu'à votre invité.
Et l'autre, merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Chamy, c'est un philosophe français spécialiste des questions internationales qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Nerotine. Bonjour à tous vos auditeurs. Et vraiment, tous mes remerciements aussi pour la présence de Maître Chamy d'Alsace.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, je viens de lancer le sujet. Cette lettre qu'a envoyée l'honorable Ayatollah Khomeini, guide suprême de la révolution islamique, à l'adresse des jeunes d'Europe, c'était en novembre 2015, et suite aux événements terroristes survenus en France. Monsieur Dortiguier, quelle est en fait la valeur, l'importance en fait de cette lettre de l'honorable Ayatollah Khomeini, d'autant plus que dans sa lettre, le guide suprême de la révolution islamique avait fait en fait des précisions très très importantes sur en fait l'avenir du monde, sur l'avenir du monde de l'islam, avait mis en exergue de cette nécessité de bâtir, si vous voulez, l'avenir du monde, du monde de l'islam, du monde tout entier, avec une de juste conception et avec une vision profonde, M. Dortiguier.
Justement, si on peut résumer, disons en deux mots, l'importance de cette lettre, nous dirons que l'Ayatollah Khomeini, guide suprême, a voulu insister auprès des jeunes, auprès de la jeunesse, sur le fait qu'il fallait privilégier la conception des choses, le jugement, sur l'émotion, ou la précipitation, comme justement nos moyens d'information ou la propagande, voyez-vous, de tous ces milieux politiques, militaires et autres ici chez nous, font pour pouvoir désorienter la jeunesse. Et qui voulait que la jeunesse voit plus loin, avec toujours en usant de la raison, sur, disons, le caractère. Il n'a pas parlé de religion islamique. Il a parlé de religion musulmane. Vous savez que le mot islamique est maintenant considéré presque comme péjoratif, comme islamiste, ne l'était pas du tout dans les siècles précédents. C'est une opération de propagande, voyez-vous, qui a fait que ces termes sont péjoratifs dans la presse d'aujourd'hui. Mais il a voulu, disons, que les jeunes gens regardent, la jeunesse regarde l'avenir et comprennent d'abord, justement, l'importance de la civilisation musulmane, la civilisation islamique. Et que celle-ci, disons, était un fait. Un fait qui reposait sur l'existence d'État, l'existence de société, vous voyez, et que le terrorisme, auquel on donne le nom de terrorisme musulman, de terrorisme islamique, auquel on fait la chasse sous prétexte de parler ici contre je ne sais quelle forme de séparatisme et autres, sont des réalités qui sont des réalités en développement. Et ceci est vrai dans l'histoire, malheureusement on ne l'enseigne que très peu, on n'enseigne pas du tout ce qu'a été le prestige de l'Empire ottoman, ce qu'a été sa conception, ce qu'a été, disons, ce qu'ont été ses philosophes, ce qu'ont été des gens comme Avicenne, par exemple, comme je l'ai vu à Hamadan. Tout ceci a été mieux connu, je dois dire, dans notre génération, que ça ne l'est aujourd'hui. Et c'est très peu enseigné dans les classes, par exemple, dans les lycées, sous prétexte de ne pas parler de confession. Il ne s'agit pas de confession, il ne s'agit pas de profession de foi, il s'agit de la réalité d'existence d'État avec lesquelles la jeunesse d'Occident doit coexister. Elle doit apprendre une coexistence, de même que l'Orient apprend à coexister avec l'Occident, comme il l'a fait du reste, disons périodiquement pendant des siècles. Or aujourd'hui, cette coexistence, sous des noms divers, est mise en cause par ceux qui veulent plonger le monde dans un chaos et faire, comme ils le disent dans une formule maçonnique connue, disons, faire sortir l'ordre d'un chaos, mais pas d'un chaos ancien, d'un chaos permanent, c'est-à-dire faire reposer une dictature mondiale, voyez-vous, qui efface les nations, qui efface les familles, qui efface les religions même, où ce qu'on, pour moi, il n'existe qu'une seule religion, mais disons, les formes de confession doivent être effacées et que l'instinct religieux lui-même doit être brimé. Ceci a déjà été annoncé par des mises en garde de plusieurs de nos philosophes. Nous en avons, M. Heidegger, l'idée, et ceci, la jeunesse aujourd'hui l'éprouve. Et ce qu'a voulu, je terminerai sur ce point, ce sur quoi a insisté, qui fait la valeur de cette lettre, c'est, je le reprends, le fait que le guide suprême met en garde contre les réactions momentanées, voyez-vous, les réactions qui sont aveugles. Il veut que la jeunesse ouvre les yeux. Il a privilégié la jeunesse parce qu'il pense que celle-ci, disons, est moins empreinte de préjugés, moins alourdie par les préjugés que ne le sont ceux qui ont connu parmi nous, dans plusieurs générations de Français, par exemple, la guerre d'Algérie, qui essaie de confondre, disons, des réalités, qui mettent sur le compte de l'islamisme ou de l'islam leurs propres méfaits, etc. Enfin, je n'insiste pas sur ces aspects sombres de notre période, mais il a bien insisté, la Ramenei, sur le fait que c'est ce développement, cet éveil de l'islam, voyez-vous, qui se marque, qui est progressif, n'est-ce pas, qui est sensible, qui doit être arrêté par, qui est arrêté par la volonté, justement, de ces cercles terroristes qui sont répandus en Occident, qui manœuvrent l'opinion occidentale, voyez-vous, et terrorisent en réalité en premier lieu les Occidentaux, en disant que la source de ce terrorisme, c'est la civilisation islamique. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un fantôme, une caricature, qui est le fruit de leur laboratoire, qui justement, qui a comme résultat, comme un mauvais vaccin empoisonne l'organisme, si je puis dire. Eh bien, on peut dire que là, la propagande occidentale, la propagande américaine, au fait de ces milieux, disons, à l'intérieur des États-Unis, comme il y en a à l'intérieur d'autres États, de tous les États, à mon avis, de ce qu'on appelle l'Occident et même de l'Orient, jusque dans l'Orient russe, vous avez des forces qui sont anti-religieuses, anti-musulmanes, anti-chrétiennes, voyez-vous, et qui veulent, un abaissement de l'humanité, et deux, une sorte de, lutte des civilisations, mais qui ne soit pas momentanée, qui serait constante. Et c'est cela que justement le guide suprême a voulu arrêter. Il a demandé, je termine dessus, il a demandé à la jeunesse aujourd'hui d'ouvrir les yeux, de ne pas être sensible à l'agitation, de réfléchir au présent et à l'avenir.
Merci beaucoup. Maître Deschamis, votre lecture, s'il vous plaît.
Avant de parler de cette lecture, je me permettrai de vous avouer une petite confidence. Lors de la première lettre adressée par le guide suprême à l'attention notamment de la jeunesse française, mais en général à la jeunesse occidentale, j'avais pris ce texte qui m'a particulièrement touché personnellement et intimement, et j'ai voulu qu'il soit publié pour qu'il touche le maximum de personnes. Et je l'ai proposé, j'ai même proposé sa publication payante sur mes deniers personnels pour que chaque citoyen, notamment en France, puisse y avoir accès, le lise et puisse bien entendu, le cas échéant, le critiquer, mais dire ce qu'il en pense avec tout l'équilibre qui se dégage de ce texte-là. Nous n'avons pas trouvé le moindre organe de presse qui ait accepté de diffuser et de publier, même de contre-payer le prix de cette publication. Pas un seul organe n'a accepté de le faire. Et ça m'a particulièrement choqué, je me disais, c'est ce que je vais expliquer à l'un d'entre eux, mais pourquoi vous ne l'acceptez pas? Parce que vous prétendez qu'il faut qu'il y ait place à tous les discours, et pourquoi pas aux discours qui se dégagent de la République islamique d'Iran, afin de mieux expliquer sa position, mais en même temps le regard spirituel de cette République, le regard intellectuel de cette République à travers la parole du guide suprême. La réponse était on comprend, mais on ne fait pas. Et cette phrase, ou en tout cas cette réponse, démontre qu'il y a un establishment qui empêche la propagation de ce discours, en tout cas la publication de ce discours, afin qu'il soit audible, compréhensible, et bien entendu touche les personnes auxquelles ce discours se destine. Pour revenir à ce discours par rapport à la jeunesse, en réalité, il y a, à mon sens, trois axes qui se dégagent de ce discours. Le premier, d'abord, c'est de faire parler la spiritualité de la République islamique d'Iran et plus particulièrement du guide suprême par rapport au message que l'on veut diffuser. C'est-à-dire que ce n'est pas un message de haine, ce n'est pas un message de défiance, ce n'est pas un message de mise en cause de la culture qui règne en Occident, c'est tout simplement ouvrir les yeux à d'autres perspectives. Et c'est en cela le discours montre et justifie une tolérance qui vient de la République islamique d'Iran à destination du monde occidental et plus particulièrement à l'attention de la jeunesse occidentale. Le deuxième axe, c'est un appel à l'introspection, c'est-à-dire pour que cette jeunesse regarde ce que la société lui propose au prétexte d'une démocratie pour la pousser en quelque sorte à se mettre en difficulté par rapport aux autres sociétés. Et je citerai l'exemple le plus parlant, si j'ose dire, c'est la publication des caricatures sur le prophète Mahomet. On présente ça comme si c'était une leçon de démocratie, mais en réalité, ça génère de la haine des deux côtés, parce que à partir du moment où on vous dit ben, on le fait au nom de la démocratie, les autres n'ont pas le droit de réagir, alors qu'il suffisait de regarder qu'est-ce que c'est cette liberté que l'on donne au nom de cette démocratie. C'est la liberté d'insulter, c'est la liberté d'humilier, c'est la liberté d'agresser. Qu'est-ce que c'est que cette liberté que j'appellerais gratuite et qui n'appelle que la haine de l'autre côté, parce que on comprend pas pourquoi cette culture vient agresser d'autres cultures alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Et c'est en cela que cette liberté de croyance vient poser une difficulté par rapport à la croyance de l'autre. C'est-à-dire, je viens pas agresser votre démocratie, mais pourquoi votre démocratie vient agresser ma croyance, mon intimité et mon intime conviction? Et la troisième observation, le troisième axe, c'est le regard du monde occidental et particulièrement de la jeunesse occidentale par rapport à l'autre partie du monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'Iran et les menaces qui pèsent sur cette république qui ne cherche à défier personne. Qu'est-ce qui se passe par rapport au Yémen, par rapport à la Syrie, à l'Irak, par rapport à l'Afghanistan et par rapport à l'ensemble du monde musulman? Est-ce que vous avez vraiment le vrai regard et la vraie compréhension par rapport à ce monde, et vous avez tout simplement ce que vos gouvernements vous apportent comme information? C'est-à-dire, à partir du moment où on vous dit c'est un monde qui a vocation à avoir la paix, qui ne cherche qu'à avoir la sécurité, qui ne cherche à avoir je dirais la meilleure relation avec l'autre partie du monde. Et qu'est-ce qu'on vient lui apporter? On vient lui apporter les menaces, la violence, la guerre, le terrorisme et tout ce que ça comporte comme destruction culturelle, patrimoniale, religieuse, sociétale et puis bien entendu civilisationnelle. C'est-à-dire à partir du moment où vous venez agresser ces pays-là, comme ce qui s'est passé notamment en Afghanistan, en Irak, au Yémen, en Syrie, c'est l'essence même de la civilisation de ces pays que l'on cherche à détruire. Et ces pays-là, vous les comprenez comment? Vous ne les comprenez pas parce que vous les regardez qu'à travers le prisme de vos dirigeants. Et moi, je vous demande tout simplement de vous ouvrir et de regarder l'équité et avec beaucoup d'intelligence et surtout avec beaucoup d'ouverture d'esprit ce qui s'y passe. Est-ce que, et c'est, je dirais, l'exemple le plus marquant, est-ce qu'un homme normal, doté d'un minimum de bienveillance, d'un minimum de, je dirais, d'intelligence, est-ce qu'il peut regarder ce qui se passe en Palestine en termes de massacres, en termes de destruction, en termes d'éviction de toute une population de son territoire pour en implanter une autre au prétexte que l'État d'Israël, que j'appelle moi l'antisioniste, a envie de s'installer sur votre territoire pour implanter des gens qui viennent de l'autre bout du monde? Qu'est-ce que c'est que cette équité? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que c'est que cette égalité entre citoyens du monde? Alors que si vous avez un territoire et vous avez quelqu'un qui se trouve sur ce territoire-là, rien ne justifie que vous venez le chasser. Et regardez donc tout ce que le monde occidental impose au monde musulman, et vous comprendrez ce qui s'y passe. Et c'est ce regard-là que l'on attend de vous, vous, la jeunesse occidentale, c'est-à-dire avoir un regard intelligent, un regard de critique par rapport aux décisions et qui sont prises en votre nom, et surtout un regard de justice, mais la justice dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne pas accepter l'injustice, ne pas accepter la destruction, ne pas accepter la terreur imposée à une population qui est, par définition, pacifique, qui n'a pas cherché à agresser quiconque et qu'on vient agresser sur son propre territoire au prétexte que l'on veut changer ce monde et le reconfigurer, le restructurer, comme l'a appelé à un moment donné Condoleezza Rice, la destruction créateur ou la démolition, moi j'appellerais créateur ou créatrice. Regardez voir ce que ça a apporté. Ça a apporté des malheurs, des drames et bien entendu une frustration de la part de cette population qui ne supporte plus ce qu'elle subit depuis un certain nombre d'années. Et c'est ça que l'on attend de la jeunesse.
Maître André Chami, vous avez un rendez-vous juridique. J'en vous retiens, plus. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre émission. Et je vous dis bonne journée et à très bientôt. Eh bien, Monsieur Tortiguet, vous venez d'entendre les explications de Maître Deschamis. Je viens de le dire tout à l'heure dans sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei a fait allusion au rôle joué par les États-Unis pour renforcer le groupe terroriste d'Al-Qaïda. Et dans une autre partie de sa lettre, l'honorable Ayatollah Khamenei précise, avec beaucoup de regrets, je dois dire que ces groupes lâches comme celui de Daesh sont les progénitures de ces liens avortés avec des cultures à importer de l'extérieur. Si le problème était vraiment de nature religieuse, de tels phénomènes auraient dû exister également à l'époque du colonialisme. Là, l'honorable Ayatollah Khamenei souligne que le groupe terroriste de Daesh n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Et l'honorable Ayatollah Khamenei fait allusion surtout à ce verset du Noble Coran qui considère que l'assassinat d'un seul être humain est comme en fait l'assassinat considéré comme l'assassinat de toute l'humanité, M. d'Ortiguier.
Oui, en effet, ce verset du Noble Coran dit que, si je puis me permettre de commenter, que quand on accepte, bien sûr, de détruire un être humain, on accepte de détruire le principe de l'humanité, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte, en fait, à des instincts démoniaques, et c'est un peu ce à quoi nous avons assisté depuis surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà autrefois, mais surtout à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque des guerres, disons, perpétuelles, à commencer par d'abord la guerre en Palestine en 1947-1949, et ensuite la guerre en 1956 contre l'Égypte, et puis ensuite avec toutes ces formes de coups d'État, vous voyez, qui marquaient la vie du Proche-Orient, et jusque bien sûr l'accroissement avec l'attaque de l'Irak, l'attaque de l'Afghanistan autrefois préparée par Brzezinski. Je soulignerai du reste, puisque nous avons cette liberté de parler ici entre nous, que l'exemple de l'Afghanistan est très important et très significatif, car celui-ci a été abattu en deux coups de cognée, comme on dit chez les bûcherons. C'est-à-dire que la première fois, c'est un coup d'État communiste, si je puis dire, qui a renversé le régime traditionnel, voyez-vous, de la monarchie afghane, et c'est sur ce premier acte communiste qu'est venue ensuite une sorte de réaction, mais contrôlée de la part de ce qu'on appelle les talibans, avec Brzezinski et autres, c'est-à-dire que nous avons eu affaire, si je puis dire, comme à des produits qu'on met dans un laboratoire. C'est-à-dire que ces États, monté une fraction de la population contre une autre. C'était des choses qui étaient faites de l'extérieur, contrôlées de l'extérieur, mais qui étaient méthodiquement suivies. C'est-à-dire, alors, on se demande quel est le but de tout cela. Le but de tout cela, c'est d'introduire une atmosphère de lutte civile permanente, un chaos permanent à l'intérieur des États. Alors, on a essayé, on aurait pu essayer de heurter les chiites, par exemple, aux sunnites et autres, mais on essaie de diviser le plus possible la société et d'introduire, comme vous l'avez bien dit en reprenant la lettre de l'Ayatollah Khamenei, d'introduire des éléments très artificiels qui n'ont pas même existé au moment de la colonisation. Nous n'avons jamais eu, par exemple, des mouvements comme Al-Qaïda ou autres, par exemple, qui, si on les prend à titre originel, par exemple, se lever contre la colonisation. Pas du tout. Au contraire, c'est cette colonisation qui a créé ces produits artificiels. Et ces gens-là, d'ailleurs, ne savent qu'ils ne sont rien sans cet apport incessant qui leur est apporté. Ce sont des gens qui ont subi, comme on appelle, des sortes de lavages de cerveau. On appelle ça les moyens MK Ultra ou autres, vous voyez. Et ils sont nourris, sans cesse nourris, j'entends, alimentés en propagande, sont alimentés en armes, etc. Ce sont des gens qui sont souvent déracinés de leur pays, voyez-vous, qui vivent en vase clos. Et c'est ceux-là qui sont des bombes vivantes, voyez-vous. Et on essaie d'intimider, non seulement d'écraser les peuples locaux, mais d'intimider en même temps les Occidentaux. Et la jeunesse occidentale en disant, voyez, ce danger incessant en Orient, etc., vous devez craindre ceci à l'intérieur de vos propres sociétés. C'est sur cette haine, sur cette crainte qu'une tyrannie espère se constituer durablement.
Merci beaucoup.
Je dirais non seulement en Occident, mais dans le monde entier.
Merci infiniment, M. Pierre d'Ortiguier, philosophe français spécialisé des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
le retour d'Alexandre Navalny, un agent de longue date de la CIA à Moscou, a étonné l'ensemble des observateurs que nous sommes. Le retour volontaire de Navalny à Moscou relève d'une opération de guerre hybride de grande envergure soutenue par l'ensemble des divisions des opérations clandestines des pays de l'OTAN. Cette fois-ci, la CIA a mis le paquet. L'objectif du retour et de l'arrestation attendue de Navalny en Russie est une révolution colorée de nouvelle génération. Nous avons interrogé à ce sujet Fabrice Béard, expert pour l'ONG EOT.
L'affaire Navalny, le retour de Navalny à Moscou, il peut être vu de plusieurs façons. Déjà, il faut prendre la genèse. La genèse, elle est très simple et très rapide. Navalny a pris un avion, il a eu une crise, il a été hospitalisé en Russie. À partir de là, il était dans un coma, je crois, provoqué. Et puis, il a été, envoyé à Berlin dans un avion privé à partir d'une ONG qui normalement est en soutien à des journalistes, etc., mais qui est une ONG qui fait partie de la mouvance de Soros, faut-il le rappeler. Et à partir de là, il a été, la campagne a commencé sur l'empoisonnement de M. Navalny, le dit empoisonnement de M. Navalny, avec des révélations qui se contredisaient les unes les autres, les versions de son empoisonnement devenaient de plus en plus contradictoires, mais la tactique de la propagande, on noie, on va dire, l'information pour éviter de laisser la place à la réflexion, effectivement, et à la mise en doute des affirmations. Et puis, il a été, relâché par l'hôpital, et à partir de là, c'est là que pose problème, parce que M. Navalny a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis, et la probation qu'il avait par la justice pour qu'il ne fasse pas ces 3 ans et demi, c'était sur une période de plusieurs années, de pointer au service d'exécution des peines 2 fois par mois. Et rien que l'année dernière, certains mois il n'y est pas allé du tout, certains mois il n'y est allé qu'une seule fois. Et donc, il aurait déjà dû avoir un rappel à l'ordre à tout le moins de passer devant le tribunal qui aurait pu annuler son sursis. Et lorsqu'il a été libéré à Berlin et qu'il a passé sa dite convalescence à Berlin, il a reçu une notification donc de la justice russe de revenir en Russie par rapport à ces éléments-là. Il n'a jamais répondu. Il était certainement très très malade, puisqu'on l'a même vu faire un tour sous le balcon de l'appartement que Poutine avait occupé à Dresde lorsqu'il était officier du KGB en République démocratique allemande, ce qui prouve un peu l'obsession du personnage pour Poutine. Et à partir de là, il savait très bien lorsqu'il allait revenir, effectivement, ce qui allait lui arriver, puisque c'était très clairement validé. Et fin décembre, il y avait une note de recherche et donc d'arrestation de Navalny. En France, c'est des semaines et des mois, des gens avec des vies totalement ruinées. Donc lorsque nous avons l'Occident qui donne des leçons à la Russie et qui demande à violer l'état de droit, là on est carrément dans Big Brother, c'est-à-dire qu'on inverse le mot, c'est une inversion accusatoire. Mais on oublie de dire, puisqu'ils font des belles images, et ça fait beaucoup parler en Europe de l'Ouest, mais même en prenant les chiffres de l'opposition, alors les chiffres de l'opposition, ils disent qu'ils sont 300 000, d'autres disent qu'ils sont 100 000, allez, en étant gentil, on va dire qu'ils sont même 200 000, ce qui n'est pas le cas par rapport au décompte qu'on peut faire. Mais même en étant 200 000, il y a 145 millions de Russes. Et le dernier sondage, c'est plus de 66% d'opinion favorable de Vladimir Poutine. Donc, ils n'ont pas réussi. Ils vont continuer encore à partir du week-end prochain. Ils vont essayer de continuer de faire dans la durée. Sauf que les appels aujourd'hui à manifester d'une manière illégale et en plus dans le cadre de la crise sanitaire, en Europe, c'est interdit. En Europe de l'Ouest, c'est interdit. En Russie, même si c'est interdit, ça a été toléré et même encadré. La police donnait des masques, la police donnait du thé parce qu'il fait froid. Donc ça, c'est des choses évidemment qu'on ne montre pas. On ne montre que quelques images pour donner un prétexte en Allemagne à casser Nord Stream 2, aux États-Unis pour continuer leur logorée russophobe, et en Europe, dans le NATO-Land en général, pour justifier l'augmentation des sanctions et créer un mur entre les deux Europes, entre celle de l'Europe de l'Ouest et celle qui se construit autour de Moscou, au nom de l'Union économique, autour de l'Union économique eurasienne. Et c'est cela le but. Le but, c'est toujours la même politique des néoconservateurs américains et à passeport européen pour certains, qui est diviser cette Europe, puisque cette Europe qui se réunit au sein d'un ensemble continental ferait que les États-Unis redeviendraient une puissance régionale toute simple. Voilà quel est l'enjeu. Et je terminerai véritablement. Cette campagne va continuer pendant plusieurs semaines et voire plusieurs mois. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ça le sera, puisque l'objectif pour eux, c'est les élections législatives qui se déroulent en septembre 2021, cette année, donc en Russie. Donc nous sommes face à un début d'une nouvelle campagne de déstabilisation qui correspond tout à fait d'ailleurs avec le retour au pouvoir des réseaux Soros, puisque la vice-présidente est une amie du fils de Soros.
L'Iran ouvert au dialogue avec ses voisins du Golfe Persique. Téhéran se déclare prêt à des négociations avec les États voisins du Golfe Persique en vue de résoudre les différends dans la région. La position iranienne est confrontée par des efforts de nombre d'autres États souhaitant qu'un tel dialogue prenne place au plus vite. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que l'Iran était toujours prêt à renforcer le dialogue avec les pays de la région du Golfe Persique, en soulignant que la région et sa sécurité appartiennent à toutes les nations régionales. Il a également noté que pour cette raison, l'Iran avait accepté la proposition du Qatar de faciliter les dites négociations pour pouvoir résoudre les différends régionaux. En ce qui concerne justement l'appel de Doha, c'est à travers le chef de la diplomatie qatari, le Cheikh Mohammed Abdelrahman Al Thani, qui a été proposé aux autres pays arabes du Golfe Persique à tenir des discussions avec Téhéran. Toujours selon lui, c'est aussi un désir d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe, donc composé du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Bahreïn, des Émirats Arabes Unis, de l'Oman et du Koweït. Bien qu'il n'ait pas précisé les autres pays intéressés par un tel dialogue, il faudrait certainement penser, entre autres, au sultanat d'Oman, qui, au-delà d'entretenir des relations diplomatiques et économiques avec l'Iran, ne le considère pas comme étant une menace pour les États arabes du Golfe. Les puissances internationales comme la Russie et la Chine, intéressées par une région stable et sécurisée, soutiennent un tel dialogue et plus généralement une normalisation des relations entre la puissance iranienne et les pays arabes du Golfe Persique. À ce titre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa récente rencontre à Moscou avec son homologue saoudien, avait fait un appel en ce sens, auquel Riyad semble pour le moment réticent. Parmi les raisons d'une telle réticence, plusieurs faits devraient être pris en compte. Tout d'abord, c'est effectivement l'État wahhabite qui s'était placé à la tête de la coalition arabe hostile à Téhéran. Mais au-delà des ambitions personnelles de l'établissement saoudien et de l'animosité qu'il puisse avoir en direction de l'Iran, il y a deux facteurs qui jouent dans le blocage de toute normalisation, même relative, entre Téhéran et Riyad, à savoir les États-Unis et Israël. Le dernier ne cache pas le fait qu'il voit en la République islamique d'Iran le principal danger pour sa sécurité. Quant à Washington, il applique et continuera certainement d'appliquer une politique qui place Tel Aviv non seulement comme une priorité dans sa politique au Proche-Orient, mais de façon générale sur l'arène internationale. Les récentes normalisations entre le régime sioniste et certains pays arabes sous la médiation washingtonienne le confirment d'ailleurs pleinement. Le souci pour l'axe Washington-Tel Aviv, c'est que le monde actuel n'est plus celui des années 90, ni au début des années 2000. La preuve de cela, c'est qu'au-delà de la montée en force des puissances internationales reconnues comme telles en premier lieu, la Russie et la Chine étant par ailleurs membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, une nation comme l'Iran formant d'ailleurs un triumvirat avec les deux premières cités, n'a probablement jamais eu autant d'influence sur la scène régionale et internationale dans son histoire contemporaine. Et ce, malgré les innombrables pressions économico-politiques, agressions et intimidations la visant, confirmant la même occasion que le grand espace eurasien constitue le fer de lance du monde multipolaire actuel, et qui d'ailleurs renforce chaque jour un peu plus l'idée que la vraie communauté internationale se trouve dans le camp eurasiatique. Pour autant, il est pratiquement inconcevable que les représentants états-uniens et israéliens puissent s'adapter de façon civilisée à cette réalité mondiale. Et continueront sans aucun doute à défendre avec nostalgie le concept unipolaire définitivement révolu. Quant aux pays arabes, qui restent des alliés de cet axe pro-unipolaire et néocolonial, il serait probablement légitime de poser la question s'ils ne seront tout simplement pas retardataires avec tout ce que cela implique vis-à-vis du train multipolaire roulant à grande allure.